Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur Graphite, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet avec la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts et la rediffusion le mardi matin à 10h. Comme ça, vous savez tout sur cette émission. Je m'appelle Jean-Noël, autre information que vous pouvez peut-être connaître. Je suis très heureux de vous retrouver tous les samedis sur l'antenne de Graphite pour parler un petit peu de l'actualité scientifique. Aujourd'hui, le 6 mai, pas mal de choses au niveau de l'éphéméride. En tout cas, il y a des choses qui ont été créées, et inventées et découvertes un 6 mai. Par exemple, le 6 mai 1829, c'est un Autrichien qui s'appelle Cyril Demian qui dépose le brevet de l'accordéon en 1829. Vous voyez déjà, c'est assez ancien. Le premier timbre-poste est mis en vente en Angleterre le 6 mai 1840. L'inauguration du glaciarium, c'est la première patinoire artificielle. C'est à Londres, c'est le 6 mai 1844. Plus proche de nous, au XXe siècle, le premier ordinateur électronique réalise son premier calcul le 6 mai 1949. En 1985, c'est l'inauguration de la géode de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et enfin, le 6 mai 1994, inauguration du tunnel sous la Manche par la reine Elisabeth II et le président français François Mitterrand. Naissance, le 6 mai 1906 d'André Weil, c'est l'une des grandes figures parmi les mathématiciens du XXe siècle, connu pour son travail fondamental en théorie des nombres et en géométrie algébrique, ça fait rêver tout ça. C'est l'un des membres fondateurs du groupe Bourbaki, il est le frère de la philosophe Simone Weil, et donc André Weil, lui, est né le 6 mai 1906, il est mort en 1998. Décès le 6 mai 1897 d'Alfred des Cloiseaux. C'est un Picard, il est né notamment à Beauvais dans l'Oise. C'est un minéralogiste français, il va étudier les geysers d'Islande, il va publier des travaux sur les roches éruptives. Il se consacre surtout à l'étude systématique des cristaux de nombreux minéraux, leurs propriétés optiques ainsi que la polarisation. Il participe à l'essor aussi de la pétrologie moderne. Alfred des Cloiseaux, décédé donc le 6 mai 1897. Voilà, des Cloiseaux, minéralogiste français. On parle très très peu de minéralogie dans cette émission. Il n'y a pas énormément d'actualité dans ce domaine-là. Et pourtant, je ne doute pas qu'il doit encore avoir des choses qui existent dans ce domaine-là, notamment. Au niveau de l'actualité, et pas mal d'articles que l'on découvre un petit peu partout sur différents sites, et notamment ce titre qui m'interpelle, « Boire un verre de vin par jour réduit-il vraiment la mortalité ?» C'est une croyance populaire qui suggère que boire un verre de vin par jour, un verre de vin rouge de préférence, est bon pour la santé et prolonge la durée de vie. Cette idée continue d'être controversée. Les études n'offrent pas de consensus en fait sur le sujet. Ainsi, les études d'observation tendaient plutôt à montrer que les personnes classées comme des buveurs modérés avaient une espérance de vie plus longue et étaient moins susceptibles de mourir d'une maladie cardiaque que celles classées comme des personnes abstinentes. C'était quand même assez étonnant. Toutefois, il y a de nombreuses preuves qui montrent que l'association positive entre une dose modérée d'alcool et un risque de mortalité diminué pourrait être due à des biais systématiques qui affectent les études. Par exemple, ne pas différencier les abstinents depuis toujours des anciens buveurs qui pourraient constituer un biais parce que leur état de santé pourrait être différent. Ça entraîne des risques de mortalité toutes causes confondues et qui n'est pas nécessairement lié à une consommation d'alcool. Les buveurs légers, les buveurs modérés sont systématiquement en meilleure santé que les abstinents actuels en ce qui concerne une série d'indicateurs de santé peu susceptibles d'être associés à la consommation d'alcool. Par exemple, l'hygiène dentaire, les habitudes des exercices, les régimes alimentaires, le poids, le revenu également. C'est ce qu'écrivent les auteurs d'une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue JAMA Network Open. Alors, l'utilisation de buveurs occasionnels comme groupe de référence a également engendré des effets protecteurs non significatifs de la consommation d'alcool à faible volume par rapport à l'utilisation de non-buveurs comme groupe de référence. Il y a deux précédentes analyses réalisées par la même équipe de chercheurs qui avaient montré que lorsque on prend en compte un petit peu tous les éléments, les faibles niveaux de consommation d'alcool n'étaient pas associés à une réduction du risque de mortalité. Et en fait, ils avaient fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une analyse de plusieurs, de plusieurs travaux de recherche. Donc, il faut une synthèse un peu globale de différentes études. Et notamment, ils avaient fait une analyse de plus d'une centaine d'études de recherche qui s'étaient étalées sur à peu près une quarantaine d'années et qui avaient inclus presque 5 millions de participants. Donc, on est sur, une synthèse assez intéressante parce qu'on a à la fois une volumétrie assez importante de personnes concernées par ces études et aussi sur une durée assez longue. Et donc, on a pu essayer d'avoir une synthèse et de préciser les résultats et de faire une analyse un petit peu plus fine de tout ça. Et les chercheurs ont obtenu des résultats un peu plus cohérents. Ils indiquent qu'une faible consommation d'alcool ou une consommation occasionnelle d'alcool n'est pas associée à une réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues, par rapport aux abstinents depuis toujours. Donc cette croyance populaire apparemment n'est pas bonne. Toutefois, le risque de mortalité, toutes causes confondues, était significativement plus élevé chez les femmes qui consommaient plus de 25 grammes d'éthanol par jour et chez les hommes qui buvaient plus de 45 grammes d'éthanol par jour par rapport aux personnes ne buvant pas d'alcool. Donc dès qu'on est dans une consommation modérée, récurrente, on va dire, on voit très bien qu'il y a des impacts plutôt négatifs. Les chercheurs avouent quand même quelques limites à leur recherche, notamment ce qui concerne la mesure imparfaite de la consommation d'alcool dans les études qui ont été analysées. En effet, la consommation d'alcool est auto-déclarée, donc quelque part on déclare ce que l'on veut. Et c'est bien souvent sous-évalué par les participants, oui, parce qu'on veut avoir une image un peu digne, on ne veut pas dire qu'on sait totalement empiffré de bouteilles de vin, on va plutôt dire qu'on a siroté un demi-verre de vin. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, quelque part, il y a un biais qui n'est pas nécessairement bénéfique dans la confirmation et la pertinence des résultats qui sont obtenus. Contrairement aux idées reçues, consommer un verre d'alcool par jour ne protégerait pas du risque de décès, toutes causes confondues. Des chercheurs canadiens mettent un petit peu en évidence tous ces nombreux biais des précédentes études sur le sujet. Je suis désolé, oui, je vous ai plombé l'ambiance, mais bon, tout est une question aussi de modération. C'est comme tout. Par contre, au niveau de la musique, on peut être moins modéré. On peut préférer avoir un petit peu plus de musique. Ça sera le cas dans cette émission. On est sur Graphite quand même. How We Do, c'était Nosage Things sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous partons en Israël, précisément à l'université de Tel Aviv, où des chercheurs ont créé un micro-robot hybride de la taille d'une cellule. Le robot microscopique qui mesure environ 10 micromètres, donc c'est vraiment du tout petit, il peut être guidé par un opérateur ou fonctionner de manière autonome. Il a été inspiré par les micronageurs biologiques tels que les bactéries ou les spermatozoïdes. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue Advances Science. On l'appelle aussi micro-moteur, en fait. Ce micro-robot, il intègre un système de manipulation d'objets basé sur la force liée au champ électrique. Toutefois, les systèmes de propulsion fonctionnent difficilement dans le milieu physiologique à cause de la conductivité. Les chercheurs ont donc créé un système hybride qui utilise une propulsion magnétique. Et donc, ce micro-robot est capable de distinguer différents types de cellules, d'identifier les cellules mourantes ou endommagées par un médicament, puis de les transporter de manière à permettre des études plus approfondies ou une analyse génétique. Il est également capable d'insérer un médicament ou un gène à l'intérieur d'une cellule spécifique ou encore de nettoyer l'environnement des particules polluantes. C'est quand même assez fascinant. En fait, c'est un genre de laboratoire sur une particule, ce robot de la taille d'une cellule. C'est quand même assez génial. Pour les chercheurs, ce micro-robot permettrait de créer donc ce laboratoire sur une particule, un système capable de mener des diagnostics dans des environnements uniquement accessibles pour des microparticules. Et donc ce micro-robot ouvrirait des nouvelles voies de recherche, serait même l'outil idéal pour les analyses dans les milieux physiologiques, tels que par exemple les biopsies liquides, et il pourrait même être utilisé pour livrer des médicaments à l'intérieur du corps, enfin à l'intérieur du corps, au bon endroit. C'est ça aussi qui serait intéressant. Ce micro-robot de la taille d'une cellule, ça a été donc créé, mis en place en Israël. D'autres informations à partir dans l'espace, avec ces voyages dans l'espace qui ne sont pas anodins. Les chercheurs l'observent depuis longtemps maintenant. Lors de séjours prolongés, le corps des astronautes est soumis à rude épreuve parce que l'humanité a évolué pendant des millions d'années en fonction de la gravité qui règne sur Terre. Et qu'une fois dans l'espace, il n'y a pas de gravité, eh bien la physiologie du corps est totalement bouleversée. Les cerveaux des astronautes n'échappent pas à ces effets. C'est ce que confirment aujourd'hui des chercheurs de l'université de l'Oregon aux États-Unis qui ont étudié des IRM réalisés sur une quinzaine d'astronautes qui ont vécu plusieurs mois à bord de la Station spatiale internationale. Les astronautes se sont prêtés à l'expérience juste avant d'embarquer pour l'espace et juste après, mais aussi 1, 3 et 6 mois après leur retour, et toutes ces images ont ensuite été comparées à celles de cerveaux d'autant de sujets témoins qui sont restés sur Terre, donc on a pu faire des comparaisons. Et ce que les chercheurs voulaient tout particulièrement étudier pour la première fois, ce sont les effets d'un tel séjour sur ce qu'on appelle les espaces périvasculaires du cerveau humain. Et ils ont en fait observé que chez les astronautes débutants, donc ceux dont c'était le premier vol dans l'espace, eh bien ces espaces périvasculaires augmentaient. Et chez les astronautes un peu plus expérimentés, et bien en revanche, rien de tel ne se produit. C'est comme s'ils avaient atteint une forme d'homéostasie. C'est ce que commente Juan Piantino, professeur à la faculté de médecine de l'Université de l'Oregon, dans un communiqué. Alors rappelons que les espaces périvasculaires, ça correspond à ces espaces qui entourent les veines et les artères de notre cerveau, ceux qui permettent la circulation du liquide céphalo-rachidien, et ils font partie intégrante d'une sorte de système de nettoyage. Donc les chercheurs l'appellent le système glymphatique. Il est chargé d'éliminer les protéines métaboliques pendant notre sommeil. Sans cela, eh bien, ça s'accumulerait dans notre cerveau. Sur Terre, les scientifiques ont observé que ces espaces périvasculaires s'élargissent avec l'âge des sujets, mais aussi lorsqu'ils développent une forme de démence. Mais dans l'espace, eh bien, on s'est rendu compte que malgré les réelles différences observées sur les IRM, eh bien, les chercheurs notent que ces modifications ne semblent pas avoir entraîné de symptômes comme des troubles de l'équilibre ou des pertes de mémoire. Alors, bien sûr, ces travaux sont destinés à assurer la sécurité des astronautes qui partiront pour des missions sur la Lune ou même pour des missions sur Mars, mais les chercheurs soulignent qu'ils pourraient également aider à mieux comprendre des troubles qui apparaissent sur Terre. L'hydrocéphalie, par exemple, qui implique la circulation du liquide céphalo-rachidien, avec l'espoir à l'avenir, en fait, de mieux les diagnostiquer et bien sûr de mieux les traiter. Mais voilà, on se rend compte que ces journées dans l'espace n'est pas anodin et que le cerveau subit lui aussi des transformations. Alors, on avait déjà parlé il y a quelques années dans cette émission de l'impact qu'il y avait sur les muscles du corps humain quand on partait dans l'espace à certains temps. Et bien là, voilà, au niveau du cerveau, bah, c'est pareil, il y a un impact également, c'est pas anodin tout ça. Et du coup, cette étude confirme un petit peu ce qu'on en avait présupposé, bien évidemment. Allez, on écoute Fuse sur l'antenne de Graphite. C'était Fuse avec Nothing People sur l'antenne de Graphite. J'étais en train de lire cet article qui est assez fascinant concernant la viande de culture. On sait que ça a été développé en laboratoire à partir des années 2010 dans le but de produire des steaks de chair et de sang sans aucune souffrance animale et qui promet de se faire bientôt une place dans l'industrie alimentaire. La prouesse technique qui a été nécessaire à sa concrétisation est indéniable. Mais il y a une start-up de viande de culture basée à Sydney en Australie qui s'appelle Vove et qui a réalisé un exploit encore plus surprenant, c'était celui de recréer de la viande de Mammouth. C'est un projet curieux. Alors, il a pour but de démontrer la possibilité de l'agriculture cellulaire, de faire prendre conscience de l'impact désastreux de l'agriculture industrielle sur la biodiversité et l'environnement, et de relancer la discussion collective sur le sujet, ainsi que de réaliser, bien sûr, un coup médiatique retentissant. Tu m'entends, une boulette de viande de mammouth reconstituée en laboratoire par une start-up, ça fait parler, bien sûr. Alors, pour le mener à bien, les scientifiques de l'Institut australien de bio-ingénierie de l'Université du Queensland ont collaboré avec cette entreprise et ils ont essayé d'assembler un drôle de puzzle. Ils ont utilisé l'ADN du mammouth éteint dont le génome avait été séquencé et qui était disponible dans une base de données publique. Après avoir récupéré la séquence responsable de la production de la myoglobine, c'est une protéine que l'on retrouve dans les muscles et qui donne à la viande son goût et sa texture caractéristique, eh bien, l'étape suivante, c'était de compléter les parties manquantes avec de l'ADN d'éléphants d'Afrique. Et ce gène hybride a ensuite été inséré dans des cellules souches de moutons, j'espère que vous allez toujours à me suivre, et les myoblastes responsables du développement on a mis ce gène hybride, gène de mammouth et gène d'éléphant, on l'a mis dans des cellules souches de moutons. Alors, pas n'importe lesquelles. Les cellules souches qu'on appelle des myoblastes, ce sont celles qui sont responsables du développement des muscles. Et tout ça a été finalement cultivé en laboratoire pour pouvoir produire une boulette de 400 grammes quand même. Une photo que l'on trouve sur Internet, vous pouvez regarder, moi je suis basé sur l'article de Futura Science, mais on voit cette espèce de grosse boulette de viande de mammouth. D'après le docteur Ernst Voltwang, qui est chercheur émérite et dont l'équipe a mené cette expérimentation, il explique que ce n'est qu'un gène parmi les 25 000 composant les cellules qui est bien du mammouth. Tous les autres appartiennent à un mouton, donc on peut s'interroger sur le réalisme de cette boulette de mammouth composite, c'est bien la myoglobine qui a changé l'apparence physique des muscles de mouton. Et donc, cette myoglobine était une myoglobine de mammouth dans du mouton. J'espère que vous arrivez toujours à me suivre. C'est compliqué, hein, finalement. L'entreprise n'en est pas à son premier projet fou, puisque des tests avaient déjà été effectués pour produire de la viande de plusieurs animaux inhabituels, comme de la viande de crocodile ou de paon. Leur viande de mammouth n'a cependant pas été goûtée, parce que la protéine musculaire qu'aucun humain n'a consommée depuis plusieurs milliers d'années pourrait entrer en conflit avec notre système immunitaire. Donc, on a laissé comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une réponse immunitaire un petit peu particulière, donc on a voulu se préserver. Cette boulette, eh bien, elle est devenue une sorte d'ambassadrice pour la viande de culture, et elle est en exposition au musée scientifique Nemo d'Amsterdam. Donc, si vous allez à Amsterdam, vous pourrez voir cette boulette de viande de mammouth. C'est troublant, non ? Il y a quelque chose. Je sais pas ce qui se passe dans notre monde là. Qu'est-ce qui nous arrive ? En fait, on produit de la viande de mammouth, on peut pas la manger. Ça n'a aucun intérêt, non ? Je sais pas. Allez, on va continuer à feuilleter. En plus, je vous mens pas parce que vous écoutez les feuilles que je suis en train de récupérer pour pouvoir bien sûr feuilleter cette revue de presse de l'actualité scientifique. Et on va parler des véhicules électriques. C'est assez intéressant parce que finalement, on a toujours un peu des appréhensions sur ce genre de véhicules. Et finalement, on voit que la technologie, elle, avance. Il y a un Français sur quatre qui envisage d'acquérir prochainement un véhicule électrique. L'autonomie, on sait, ça reste un sacré frein à l'achat pour plus de deux tiers d'entre eux, selon une étude qui avait été menée. Mais ce n'est pas le seul obstacle. Il est lié, en fait, intrinsèquement au prix du véhicule. Et donc, allonger l'autonomie reste possible à condition de payer le prix fort. Et en attendant de trouver le bon équilibre, eh bien, la science planche et cherche toujours à augmenter l'autonomie des batteries tout en les rendant fiables, durables, éco-responsables et aussi peu coûteuses, si c'était possible, bien évidemment. Alors, c'est un jeu d'équilibriste ou consensus plutôt difficile, parce qu'il y a de nombreuses pistes qui sont explorées pour y parvenir, et parmi elles, il y a les technologies de batterie dotées d'anodes au silicium. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, puisque le développement de cette technologie a plus de 10 ans, et en remplaçant le graphite actuel, le graphite, le matériau, hein, je vous parle pas de la radio, et si on remplace le graphite par le silicium disponible en abondance et qui est moins cher, et bien ce type de batterie peut stocker 9 fois plus de lithium, et donc l'idée, c'est de pouvoir augmenter l'autonomie. Alors les constructeurs, ils ajoutent progressivement ce matériau en le mélangeant à la structure graphite pour pouvoir grignoter un petit peu des kilomètres. En revanche, parvenir à une anode dotée de 100% de silicium, ça reste compliqué parce que l'anode triple de volume lorsqu'elle accueille le lithium, et cela engendre des déformations qui réduisent la durée de vie de la batterie. Alors, ce n'est pas une fatalité, car pour éviter ces dégradations, les chercheurs ont mis au point des anodes aux structures spéciales. Mais jusqu'à maintenant, toutes ces expérimentations restaient confinées dans l'enceinte des laboratoires. Sauf qu'à un moment, il va falloir quand même que ça soit dans les voitures et que ça commence à devenir quelque chose de concret et d'efficace. Les avancées sont telles que quelques sociétés sont désormais capables de commercialiser des matériaux rendant possible la fabrication massive de ce type de bactéries. C'est notamment le cas d'une entreprise américaine qui s'appelle Sila. Elle vient de dévoiler son anode parfaitement fonctionnelle. Elle devrait être intégrée dans la future Mercedes-Benz classe G. Et avec cette anode, l'augmentation de l'autonomie serait de 20% et la durée de charge qui serait significativement réduite également. Ce qui est quand même assez intéressant en termes de résultats. Avec le silicium de ces anodes, eh bien, un véhicule électrique pourrait parcourir 160 km de plus. Et sachant que la voiture la plus autonome reste la Lucid Air Grand Touring avec ses 830 km, et bien une telle batterie pourrait permettre aux véhicules électriques de rouler au... Ça s'appelle Sally. Ce ne serait que le début, car en poussant la technologie, il serait possible d'aller encore plus loin. Alors, le conducteur annonce également que son anode permet de réduire considérablement la durée de la charge, parce qu'il ne faudrait ainsi que 20 minutes pour passer de 10 à 80% de la charge, 20 minutes seulement, c'est vrai que c'est quand même assez fascinant. Cette durée ne serait finalement pas plus rapide qu'avec les derniers modèles comme celui présent sur le modèle de Hyundai avec sa charge de 18 minutes pour un taux équivalent. En revanche, on indique qu'il serait capable de diviser cette durée par deux dans un avenir proche. Donc on est vraiment cette fois de plus en plus sur des solutions technologiques qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'avoir une charge ultra rapide. Du côté donc de Mercedes, l'arrivée de cette anode est annoncée depuis mai dernier pour équiper la batterie de son prochain classe G. Les deux marques sont déjà partenaires depuis 4 ans pour développer ce type de batterie. Et la production de masse de cette batterie devrait débuter à partir du second semestre 2024. La firme pourrait ainsi délivrer suffisamment de matériaux pour pouvoir composer les batteries d'un million de véhicules électriques sur 5 ans. Et l'avantage de cette technologie est que, du fait en plus que c'est déjà un coût un peu moindre par rapport à ce qui existe, eh bien, ça ne va pas requérir de réaliser de grosses modifications sur les modèles actuels, parce qu'il suffit juste de remplacer l'anode qui est actuellement en graphite par ce matériau nouvellement créé par la société Sila à base de silicium pour pouvoir avoir une autonomie en hausse de 20% et une charge ultra rapide pour les voitures, pour les batteries des voitures électriques dès l'an prochain. C'est voilà, ça commence à devenir intéressant quelque part, parce que on est en train de lever des aléas techniques qui étaient des véritables points bloquants, et là on voit très bien que ça, bah, que ça avance, et que ça avance vite, et que ça avance très très vite d'ailleurs. Allez, on écoute encore un peu de musique sur l'antenne de Graphite.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À
7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket. Alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc j'dis plus rien. J'ai 16 ans et j'passe par la fenêtre, pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints, et j'raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme, quand j'mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne, sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier, et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
La quête, c'était Orelsan sur l'antenne de Graphite. Des petites brèves de science et avenir. Par exemple, en éthologie, comportement des animaux, afin de mieux comprendre le comportement des poulpes notamment, des chercheurs ont réussi pour la première fois à enregistrer les ondes cérébrales de 3 pieuvres en mouvement. En leur implantant des électrodes et un petit enregistreur de données, ils ont ainsi identifié des oscillations lentes de longue durée qui n'étaient jamais décrites auparavant. Ce sont des chercheurs de l'université d'Okinawa au Japon qui ont pu aborder des informations, enfin obtenir des informations un petit peu plus concrètes, notamment sur le poulpe Octopus cyanea qui possède 500 millions de neurones répartis dans tout son corps et donc l'activité cérébrale est un petit peu plus comprise et étudiée. Toujours au niveau des animaux, il y a une étude qui montre qu'un peptide sexuel, c'est une protéine du liquide séminal des drosophiles mâles qui provoque une sorte de jet lag chez les femelles. En fait, il y a une augmentation de la ponte, une faible réceptivité à d'autres accouplements, une immunité, une morphologie, un métabolisme, une mémoire, bref. L'analyse révèle que ce peptide modifie l'activité génétique des femelles de plusieurs heures à plusieurs jours. Et donc, du coup, la femelle, elle voit son rythme circadien modifié après le coït. C'est une espèce de jet lag, en fait, de la drosophile après l'accouplement. Pour quelle raison, on n'en sait rien encore. Enfin, on se doute peut-être que après l'accouplement, bien, le mâle ne veut pas que la femelle aille voir ailleurs, ou en tout cas se concentre exclusivement à la reproduction et à la gestation. Mais voilà, c'est assez, assez étonnant. Et ça nous vient de l'Université Cornell aux États-Unis. Autre domaine, cette fois au niveau de l'énergie, il y a des vitres photovoltaïques. Photovoltaïques donc sur la base du soleil, bien sûr. Ces vitres photovoltaïques, c'est la promesse d'une équipe de l'université de Picardie, Jules Verne, pardon, je vais y arriver, à Amiens, bien sûr, qui a donc inventé des cellules solaires qui sont transparentes et elles peuvent s'intégrer dans des doubles vitrages pour produire de l'électricité. C'est une innovation totalement intéressante qui vient d'être financée pour un développement industriel d'ici à 2025, parce que si on arrive à avoir des vitres transparentes qui vont pouvoir produire l'électricité, là, ça peut être quand même un débouché technologique véritablement intéressant d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue commercial. Donc, c'est une affaire à suivre. Et en plus, ça nous vient de Picardie. Alors, autant en profiter. Au niveau médical, il y a les autorités américaines qui viennent d'autoriser un spray nasal contre la migraine. C'est une molécule qui est un anticorps monoclonal commercialisé par le laboratoire Pfizer. Il y a une étude de phase 3 qui est menée sur 1400 personnes et qui a, cette étude, montré une réduction de la douleur migraineuse au bout de 15 minutes. Et donc ce médicament pourrait être ensuite commercialisé, parce que les autorités américaines viennent d'autoriser la mise sur le marché de ce spray nasal contre la migraine. C'est assez intéressant. Enfin, il y a une étude de squelettes vieux de 5000 ans, de ce qu'on appelle des Yam Naya. Ce sont des éleveurs nomades des steppes eurasiennes. Et cette étude révèle que certains avaient un syndrome de l'équitation qui était visible sur les tibias. C'est la plus ancienne preuve archéologique de l'utilisation du cheval comme moyen de locomotion. Nous sommes à 3500 ans avant notre ère, soit dès le tout début de la domestication du cheval, notamment pour son lait. Et ça se pratiquait donc il y a déjà 5000 ans, l'équitation. C'est assez intéressant. C'est l'université d'Helsinki en Finlande qui a donc apporté cette preuve. C'est assez, voilà, je sais pas, je trouve ça aussi intéressant de savoir qu'il y a 5000 ans, on faisait déjà de l'équitation. On continue à écouter un peu de musique et à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite.
Like you see.
The Dress, c'était Blonde Redhead sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h avec cette question: pourquoi les petits chiens vivent-ils plus longtemps que les grands? C'est une question à laquelle on pourrait peut-être avoir des réponses. L'espérance de vie moyenne d'un chien est de l'ordre de 11 ans. Elle a tendance à augmenter grâce aux soins qu'on leur apporte. Mais une caractéristique étonnante persiste. Les plus grandes races de chiens vivent globalement moins longtemps que les plus petites. 15 ans à peu près pour un chihuahua, seulement 7 ans pour un danois. Il y a des chercheurs de l'université d'Adélaïde en Australie qui viennent enfin de mettre la main sur une explication. Les grands chiens ne vieillissaient pas nécessairement plus vite que les races plus... Les grands chiens ne vieillissent pas nécessairement plus vite que les races plus petites, mais nous montrons qu'à mesure que le poids corporel moyen de la race de chien augmente, le taux de cancer augmente également. C'est ce qu'explique le docteur Jack Da Silva dans un communiqué. Et en cause, selon les chercheurs, un élevage sélectif trop rapide et récent de chiens plus gros pour que leur corps puisse développer des défenses contre la maladie. Les biologistes évoquent une théorie du vieillissement connue sous le nom d'optimisation de l'histoire de vie. Cette théorie est basée sur l'idée que si vous investissez la plupart de vos ressources et de votre énergie dans la croissance et la reproduction, vous ne pouvez pas également les investir dans la réparation cellulaire et les défenses contre le cancer. Et donc les chercheurs avancent ainsi qu'attendu que la plupart des 400 races de chiens qui existent aujourd'hui sont apparues dans les 200 dernières années, les chiens les plus grands pourraient tout à fait s'adapter encore à l'avenir pour vivre plus longtemps et de manière naturelle ou par le biais d'un élevage qui sélectionnera les chiens présentant des taux de cancer plus faibles également. Et donc avec un prix à payer tout de même, celui de portée, qui seront vraisemblablement plus limités en nombre également. Et donc du coup, voilà, on commence à avoir une petite explication sur cette différence qu'il y a au niveau de l'espérance de vie entre les petits chiens et les grands chiens. On n'a pas parlé du réchauffement climatique, il me semble, dans cette émission, mais comme on en parle régulièrement, on a là encore une illustration de ce phénomène avec la hausse du niveau de la mer qui est boostée par le réchauffement climatique, en plus bien sûr d'une évolution naturelle. Sur les côtes américaines, elle a de plus connu une accélération sans précédent à la suite du passage de l'ouragan Ian qui a dévasté la Floride en septembre de l'année dernière. La montée des eaux peut en effet être subitement aggravée par l'impact des tempêtes tropicales et des ouragans sur les terres. Il y a une nouvelle étude de l'Université d'Arizona qui prévoit que le niveau de l'eau va monter en moyenne de 30 cm d'ici 2050 sur les États américains situés le long du golfe du Mexique, mais aussi sur ceux du sud-est situés le long de l'Atlantique. Mais ce niveau pourrait être atteint encore plus tôt si de nouveaux ouragans majeurs frappent le littoral. En 31 ans, le niveau de l'eau est déjà monté de 15 cm le long des côtes de la Floride. Et sur ces 15 cm, il y en a presque 13 qui le sont depuis 2010 seulement. Une partie de l'archipel des Keys, ce sont des îles qui sont situées au sud de l'État, une partie sera probablement engloutie d'ici 2025. 2025, c'est demain, en fait, c'est dans 2 ans. Et au moins un tiers de la Floride sera sous l'eau d'ici 2100. La vitesse avec laquelle cette hausse du niveau de l'eau se produit est sans précédent depuis au moins 120 ans, qui correspond à la période des premiers relevés fiables. D'ailleurs, il y a des grandes villes comme Miami en Floride, la Nouvelle-Orléans en Louisiane, Houston au Texas et Charleston en Caroline du Sud qui sont actuellement en sursis et n'existeront plus d'ici la fin du siècle, voire bien avant, nous dit-on. Ces zones côtières subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, mais pas seulement. Les zones humides, les mangroves, les rivages naturels, tout ça qui protégeait un petit peu les côtes dans le passé, ça a en partie disparu pour laisser la place, bien sûr, à l'urbanisation. Et donc, ça a aussi favorisé un petit peu ce dispositif. Et donc, du coup, voilà, Miami et la Nouvelle-Orléans vont disparaître sous l'eau plus tôt que prévu. C'est ce que révèle donc cette étude qui nous vient de l'Université d'Arizona. Voilà, on écoute encore un petit titre sur l'antenne de Graphite et on terminera cette émission parce que ça avance et que ça passe vite, mine de rien, ça passe vite. We'll be right back. C'était Agar Agar sur l'antenne de Graphite. Allez, deux dernières informations avant de nous quitter. La première, bah, c'est ce qui se passe un petit peu sous nos pieds, dans les sols, avec des choses qui se passent et que nous ne soupçonnons pas, j'allais y arriver, des milliards de micro-organismes s'y cachent et prennent part au cycle du carbone, une part importante en décomposant les plantes et en prélevant ainsi le carbone qui se trouve alors stocké dans le sol. C'est une bonne chose à plus d'un titre, parce que le carbone modifie les propriétés physiques des sols et empêche ainsi l'érosion, ou parce que les sols riches en carbone sont également plus riches en nutriments, de quoi favoriser la pousse des plantes et stocker de plus en plus de carbone. L'ennui, c'est qu'il y a aussi dans les sols des micro-organismes qui, eux, libèrent du carbone dans l'atmosphère. Et donc l'enjeu, c'est de comprendre comment, dans un monde qui est confronté au réchauffement climatique, dans un climat qui change, eh bien, comment tout cela va se rééquilibrer. Il y a des chercheurs de l'Université de Californie qui nous apportent aujourd'hui quelques réponses, en notant d'abord que si les plantes et les micro-organismes seront touchés, notamment par la fréquence et l'intensité croissante des épisodes de sécheresse, eh bien, les seconds devraient pouvoir se montrer plus résilients que les premières, à savoir les micro-organismes, en effet, qui devraient se montrer capables d'évoluer et de changer leur physiologie plus rapidement que les plantes. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que déjà les chercheurs observent que les périodes de sécheresse plus fréquentes et plus intenses semblent à l'origine d'une perte de carbone dans les sols, mais ils ne savent pas encore quel mécanisme se cache derrière cette évolution, d'autant que la sécheresse pourrait bien ne pas affecter de la même manière différents types d'écosystèmes. Or, il sera important de comprendre tout cela, car cela pourrait permettre de faire pencher la balance en faveur des micro-organismes les plus bénéfiques aux plantes, bien sûr, et les plus susceptibles de retenir le carbone dans le sol. Donc, on est, voilà, pour l'instant sur des hypothèses, mais on n'en sait rien. Les sols souffrent, bien sûr, de la sécheresse. Et donc, l'adaptation à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses sera difficile pour les plantes. Et du coup, on est sur des hypothèses qui ne sont pas nécessairement, là encore, bien totalement établies. Dernière information, et on va partir dans la Lune. Pouvoir extraire de l'eau directement des roches de la Lune, voilà ce qui représenterait un avantage certain, bien sûr, pour les futures missions habitées à destination de la Lune. Mais encore faut-il savoir où elle se cache et en quelle quantité elle est présente. Avec la programmation des nouvelles missions sur la Lune du programme Artemis, la recherche d'eau lunaire a subi bien sûr un récent regain d'intérêt. Parce qu'on a oublié un petit peu l'idée que la Lune était totalement sèche. Depuis une vingtaine d'années, la présence d'eau a été confirmée par de multiples études, réalisées à la fois sur la base d'observations orbitales, mais également de mesures in situ, notamment par l'intéresseur chinois Change 5. Mais il ne faut cependant pas s'imaginer des torrents qui vont couler à la surface de la Lune, parce que l'eau elle est piégée sous forme de molécules au sein des roches qui composent le sol lunaire. Et l'origine de cette eau restait à éclaircir, tout comme sa place dans le cycle de l'eau de la Lune, car aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe bien en fait un cycle de l'eau sur la Lune, bien que très différent de celui que nous connaissons sur Terre, bien évidemment. Il y a des observations qui ont en effet montré que les régions équatoriales délivrent de l'eau à la surface de la Lune. Une partie migre alors vers les régions polaires grâce aux différences de température, alors qu'une autre partie s'échappe vers l'espace. Pardon. Donc il y a bien un cycle qui décrit par des phases de rétention, de relargage, de recharge. Ce cycle nécessite cependant l'existence d'un réservoir tampon dans le sous-sol lunaire, un réservoir qui jusque-là n'a pas encore été identifié. Alors dans une nouvelle étude, il y a des chercheurs chinois qui semblent cependant l'avoir trouvé. Ils ont pour cela analysé les échantillons rapportés sur Terre justement par l'atterrisseur Change 5 et plus particulièrement les billes de verre produites lors des impacts avec des météorites à la surface de la Lune. Ces petits fragments de rhéolite fondu contiennent en effet... Excusez-moi. Pardon. Et tant que l'émission se termine, je ne vais pas y arriver. En fait, il y a des petits fragments de rhéolite fondu qui contiennent en effet de l'eau dans une proportion qui fait que ces roches pourraient représenter le réservoir d'eau permettant peut-être d'expliquer justement ce cycle de l'eau sur la Lune. Il y a des analyses qui ont permis de montrer que l'eau contenue dans ces billes de verre provenait de l'action des vents solaires. Et donc du coup, les scientifiques ont calculé que ce réservoir représenterait au total entre 300 millions et 270 milliards de tonnes d'eau. Alors déjà, l'échelle, elle est quand même assez large, mais en tout cas, c'est quand même une réserve assez conséquente. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Geoscience, mais donc du coup, la Lune renfermerait d'énormes quantités d'eau. C'est ce que révèle cette étude chinoise. Voilà, allez, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que ça va être compliqué pour moi et pour vous. Donc on va s'arrêter ici de toute façon. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net sur Internet, avec la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.